Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 7 mars 2016. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible ou à nous écouter via le podcast disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Cinq ans, cela fait 5 ans que la guerre fait rage en Syrie, déstabilisant toute une région, mais changeant aussi le monde. Vendredi 11 mars, à la fin de cette semaine, nous consacrerons toute la journée à parler de ce que ce conflit a changé dans le monde, de notre perception du monde aussi. Ça sera un grand récit du monde moderne. Mais dès aujourd'hui, en compagnie de notre tête chercheuse, Annie Sarthe-Foria, nous allons parler de Palmyre. Palmyre d'aujourd'hui, Palmyre sous les bombes, Palmyre détruite par Daesh, Palmyre pillée, et puis nous allons remonter l'histoire de cette cité. Et en deuxième partie, aujourd'hui je reçois Pascal Reverte pour sa pièce de théâtre. Il a écrit cette pièce, il joue dans sa pièce, ça s'appelle I Feel Good, et ça se produit au Théâtre des Déchargeurs jusqu'au 26 mars. Mais tout de suite, tête chercheuse, retour à Palmyre. Avec Anne Sarthe-Foria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire ancienne et vous êtes surtout l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Palmyre. Palmyre, la cité des caravanes, Zénobie de Palmyre à Rome. Le prochain ouvrage consacré à Palmyre sort au mois de mai. Et vous êtes aussi membre du groupe d'experts pour le patrimoine syrien auprès de l'UNESCO. Tout cela, bien sûr, va nous aider à y voir un peu plus clair sur le Palmyre d'aujourd'hui et d'hier. Et pour commencer, premier épisode d'aujourd'hui, une mémoire invisible, Palmyre, la Venise des sables, la perle du désert. Eh ben, il y a eu beaucoup de qualificatifs pour parler de Palmyre, mais aujourd'hui, c'est plutôt un champ de ruines. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que c'est un champ de ruines?
Alors, c'est pas complètement un champ de ruines parce qu'il reste encore, fort heureusement, quelques monuments debout à Palmyre. Mais c'est vrai que le site a été profondément abîmé par les destructions perpétrées par Daesh après leur entrée dans le site. Ils sont arrivés fin mai et les premières destructions ont commencé à la fin du mois de juin. Donc aujourd'hui, on peut compter plusieurs bâtiments totalement détruits, pulvérisés, réduits à l'état de gravats. En l'occurrence, 2 des plus beaux temples du site, le temple de Baal Jamin qui a été le premier détruit, le temple de Bel qui a suivi dans la semaine après, et qui étaient des temples encore debout. C'était des emblèmes en quelque sorte du site. On venait à Palmyre pour voir le coucher de soleil, le lever de soleil sur le temple de Bel. C'était véritablement un des joyaux du site. Ces deux temples ont été totalement soufflés par des explosions et il ne reste que des gravats. On a actuellement des photos satellites qui nous montrent la réalité tragique, terrible, de ces destructions. Le temple de Bel, il ne reste plus que la porte d'entrée du temple, les deux montants et la partie supérieure de la porte, parce qu'elle avait été très fortement bétonnée lors des restaurations faites à l'époque du mandat français, lorsque la France avait un mandat sur la Syrie après la Première Guerre mondiale, et les restaurations ont commencé dans les années 1930. Donc ce temple avait été consolidé, la porte avait été renforcée, par conséquent elle a fort heureusement échappé. Mais alors c'est d'autant plus tragique qu'on a maintenant cette espèce de porte toute seule au milieu du champ de ruines autour. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait penser, vous savez, à ces photos qu'ont faites les journalistes après l'effondrement des tours du World Trade Center. Il y en avait une dont il restait une carcasse en métal. C'est un peu cette impression que ça donne à Palmyre, de juste une carcasse qui reste du temple. Quelques temps après, Daesh a fait sauter des tours funéraires qui étaient là encore des monuments tout à fait emblématiques du site, celles qui étaient sur la butte de Belkis qui dominait le site et qui étaient des tours sur 4 ou 5 étages. Ils en ont fait sauter, je crois, 7 au total, dans divers secteurs, une partie sur la butte de Belkis, une autre partie dans une nécropole. Et puis, dernier dommage, c'est le grand arc de triomphe qui était à l'entrée du site et qui, lui, peut-être sera relevable parce que il semble qu'il ait été détruit à coups de bulldozer. C'est-à-dire que les dernières photos que j'ai vues, les blocs sont à terre, mais il n'est pas à l'état de gravats comme les autres monuments. Donc ça, c'est peut-être un espoir de pouvoir éventuellement reconstruire ce grand arc. Mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Beaucoup de pierres auront été abîmées, beaucoup de choses ne seront plus restaurables.
Alors, Alissart Foria, on va parler bien sûr de l'histoire de ce site, hein, à travers l'histoire aussi de cette région. Mais puisqu'on parle des ravages occasionnés par Daesh, vous tenez toujours à préciser qu'il y a eu aussi les pillages qui ne sont pas... essentiellement dû à Daesh, mais aussi à l'armée depuis
Absolument.
Le début de la guerre.
Il y a même eu des dégâts occasionnés par l'armée, parce que l'armée du régime de Bachar el-Assad occupait la citadelle reconstruite au XVIIe siècle, qui domine le site. Et de là, ils tiraient des obus, des roquettes sur tout ce qui passait dans le site en bas, parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait des rebelles cachés dans la palmeraie. Donc, on a déploré des colonnes qui ont été détruites, des morceaux de temple de Bel qui ont été touchés par des éclats d'obus, etc. Et puis, alors surtout, il y a les destructions invisibles, et ça, il faut vraiment en parler, parce que évidemment, on déplore la perte des monuments, mais ce qui est tout à fait terrible du point de vue de l'histoire, c'est que les armées de Bachar, comme Daesh, se sont livrées à un véritable pillage du site, et notamment de tous les tombeaux souterrains. Parce que dans ces tombeaux souterrains, ils espèrent trouver des bustes funéraires avec lesquels on obturer les emplacements funéraires des défunts. Et ces bustes, on en voit partout dans les musées. Tout le monde a vu un buste funéraire de Palmyre quelque part. C'est tout à fait reconnaissable au premier coup d'œil. Et ça se vend fort cher. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont intéressés par ça. Et donc, on assiste actuellement à un pillage en règle du site. J'ai encore reçu ce matin des photographies d'objets qui ont été retrouvés en Turquie, qui ont été retrouvés chez des antiquaires dans le monde entier. Donc là, on a vraiment une perte pour l'histoire qui est plus grave encore que la perte des monuments que l'on voyait, parce que les monuments que l'on voyait, ils ont été photographiés, ils ont été relevés, ils ont été mesurés. On a tous les documents sur ces monuments.
Donc on peut...
On pourrait les reconstruire éventuellement, ou refaire une 3D si c'est le choix qui est fait. Mais ce qui est pillé, c'est quelque chose qui est sorti de son contexte, qui n'a plus de sens pour l'historien, parce que on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas dans quel contexte ça a été trouvé, et ça, c'est une perte terrible pour remettre dans l'histoire en quelque sorte ces objets dont on ne saura jamais la provenance. Et ça, c'est terrible. Mais il n'y a pas que Palmyre qui est soumise à ce régime. Tous les sites archéologiques de Syrie sont ravagés par des fouilles clandestines, par des pillages incessants. Je citerai l'exemple de Mari sur l'Euphrate, de Doura Europos sur l'Euphrate, d'Apamé dans la vallée de l'Oronte, dont les photos aériennes révèlent des catastrophes archéologiques.
Mais ce trafic de pièces archéologiques se fait avec la complicité des musées d'Occident. De collectionneurs.
Alors, les musées d'Occident, non, parce que, bon, on peut jamais être certain à 100%, mais il y a quand même tout un arsenal qui a été mis en place par Interpol, par l'UNESCO, pour traquer les gens qui feraient ce trafic. Mais de toute façon, ils le font pas au grand jour, hein. C'est extrêmement clandestin, et il y a toujours des gens malhonnêtes pour acheter ces objets, pour les stocker dans l'immédiat, dans des ports francs, à Genève, à Munich, dans des différents endroits, et les ressortir dans une dizaine d'années. C'est pas forcément maintenant qu'on va voir sortir les objets. On en voit quelques-uns, mais c'est pas la masse de ce qui a été volé.
Bah alors, pourquoi détruire Palmyre? C'était quoi l'idée de Daesh? Est-ce pour permettre ce trafic de pièces ou c'est vraiment le symbole Palmyre qui est ciblé?
Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que Palmyre, c'est un symbole double. C'est un symbole pour le régime de Bachar el-Assad, puisque si on connaissait un petit peu, les gens qui sont allés en Syrie ont dû voir ça, sur les billets de banque, vous aviez le grand arc de Palmyre, le plafond du temple de Bel, une monnaie représentant Zénobie, etc. Donc, Palmyre était vraiment un site que le régime mettait en avant comme un site important. En plus, il y a eu aussi toute une récupération nationaliste, dont on reparlera probablement, de l'épopée de Zénobie. Et donc, c'était un site dont le régime était particulièrement fier de le montrer, de le mettre en avant, ce qui n'empêchait pas par derrière de faire des pillages et de le détruire d'une autre manière. Mais c'était un site emblématique. C'était en même temps pour les Syriens aussi un site dont ils étaient fiers, parce que d'abord ça leur procurait des ressources. Les gens de l'Oasis n'avaient pas grand-chose pour subvenir à leurs besoins. L'Oasis produit pas grand-chose. Et donc le site de Palmyre est un site touristique. Il était classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et donc les touristes venaient tous à Palmyre. Je connais personne qui soit allé en Syrie sans être allé à Palmyre, évidemment. Ça avait d'ailleurs généré ces dernières années de développement d'hôtels, développement de petits restaurants, etc. Les gardiens, les guides, bref. Donc il y avait toute une économie autour du site qui était extrêmement importante pour les gens. Et puis, pour les spécialistes de l'Occident ou pour tous les amateurs d'antiquités ou de ruines, Palmyre était un site magnifique. Ce site au milieu du désert, avec cette oasis en bordure, qui était magique. Quand on arrivait à Palmyre et qu'on voyait émerger les ruines, quelle que soit l'heure du jour, on ne pouvait être que séduit. En plus, c'était un site qui était ouvert, où on pouvait se promener comme on voulait, quand on voulait. Et donc, toute cette symbolique, à la fois de l'Occident, qui aimait ce site, qui venait voir ce site, d'ailleurs les Syriens aussi, et toute la symbolique liée au régime a sans doute joué dans la volonté de le détruire. Oui, de nous faire un petit peu pièce en disant, voilà, vous y tenez, bon, très bien, on va le casser, on va le détruire. Ça, c'est clair. Et puis, en même temps, il ne faut pas se leurrer, ça cache aussi, évidemment, le trafic. Les destructions, pendant qu'on parle des destructions, on parle moins des trafics, on parle moins des pillages.
Bon, il y a une année, on parlait beaucoup de ces destructions de Daesh, les destructions de Palmyre, et aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, la ville a été en partie vidée de ses habitants. Bon, j'ai vu encore hier une vidéo qui a été tournée en caméra cachée par quelqu'un qui a parcouru le site, mais uniquement sur la route principale. On n'a pas de photos du temple de Bel parce qu'il est un peu à l'écart. Il faut se démarquer de la route pour aller le filmer. Mais on voit assez bien la destruction de l'arc puisque la route passe devant. On voit au loin que les tours funéraires ont disparu. On voit que le temple de Bel famine a disparu. Et donc, on voit aussi des vues du village moderne de Palmyre. Et on voit que là, ça a été touché par des éclats d'obus, des tirs divers. Et les immeubles sont vides. Les gens sont
donc
partis.
Donc un village fantôme.
Un peu fantôme, oui.
Et le site, qu'est-ce qui reste?
Alors, le site, il reste encore beaucoup de choses. Je ne sais pas si on doit donner des idées à ceux qui ont encore envie de le détruire. Mais il reste encore pas mal de tours funéraires, même si ce ne sont pas les plus belles qui restent. Les plus belles ont été détruites.
Et un site déserté, c'est-à-dire plus personne ne le protège.
Plus personne, non, plus personne. Il y a quelques personnes qui appartenaient à la Direction Générale des Antiquités et des Musées qui vivent encore à Palmyre, mais qui font profil bas, parce que au risque de leur vie, ils pourraient, s'ils avaient l'intention de protéger ou de faire des photos, etc., Daesh n'hésiterait pas à les exécuter. Ça s'est produit dans d'autres sites. Donc, il y a quand même des gens qui téléphonent, qui envoient des photos, qui restent en contact avec Damas, qui restent en contact avec l'extérieur, mais au péril de leur vie.
Merci beaucoup Annie Sarthe-Fourdien, on se retrouve demain à la même heure, et demain vous nous raconterez l'histoire de Palmyre. Retour à Palmyre, c'est la série de cette semaine, en ouverture d'un autre jour est possible, votre réveil culturel dans un instant théâtre.
Jour est possible par Toufik Hakem tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Je suis dans ma chambre, celle d'avant la réanimation. J'attends. J'attends des médecins une pilule qui mettra fin à ce médiocre épisode. Une pilule pour reprendre le cours balisé de mon existence. Une pilule qui niera tout mystère. Une pilule pour ne pas avoir à m'interroger sur l'hypothèse de mourir bien avant ce que j'avais prévu. Maintenant, je veux qu'il me la donne là, tout de suite, cette pilule. Ce cachet, ce médicament, cette injection, cette perfusion, qu'il appelle comme bon leur semble. Mais je veux qu'il me donne quelque chose. Parce que je n'en peux plus d'avoir mal. J'ai le droit de ne plus avoir mal. Je suis dans un hôpital, et que dans un hôpital, on n'a pas à avoir mal. Ou alors ça ne sert à rien, un hôpital. Monsieur, entre 0 et 10, à combien pouvez-vous évaluer votre douleur ?
C'est une pièce de théâtre qui fait 1h15 pour raconter une histoire, ou plutôt une expérience, qui ne dure que 29 secondes. Un homme et une femme, tous les deux entre la vie et la mort. Moment de bascule, pas encore mort, déjà plus en vie. Vont-ils mourir ou renaître ? Disparaître ou réapparaître ? Pendant toute la pièce, pendant cette demi-minute, ils vont nous dire tout ce qui traverse leur esprit. Ce qu'ils voient dans la position où ils sont, ce qu'ils pensent alors que la morphine continue son effet. Ils disent tout des conditions de l'accident, de l'hospitalisation, de leur vie d'avant, du néant qui les attend peut-être. Mais le titre « I feel good » n'est pas trompeur pour autant. On ressort avec plus de tonus et de vie à l'issue de cette pièce. Une écriture originale, une mise en scène sobre et efficace, la pièce « I Feel Good » se produit dans ce joli petit théâtre du centre-ville de la capitale, Les Déchargeurs. Et mon invité ce matin est tout à la fois le comédien et l'auteur de la pièce, Pascal Revert. Bonjour.
Bonjour.
Et si j'ai bien compris, cette histoire d'entre la vie et la mort est votre histoire dans tous les sens du terme.
Complètement. Il y a 7 ans, je me suis retrouvé dans un service de réanimation, diagnostic vital engagé. Et 7 ans après, il m'a été nécessaire de recréer non pas cet événement biographique, ou plus exactement autobiographique, mais d'essayer de retrouver et de happer cette mémoire du passé en la convoquant au présent, en s'intéressant finalement plus aux mécanismes du souvenir. Qu'est-ce qui reste en nous de ce type d'expérience? Et avec le sentiment que plus je m'éloignais du moment de cette réanimation, et plus c'était à un parfait étranger que cette histoire était arrivée.
Et vous avez eu combien de temps pour d'abord décider de revenir sur cette expérience et d'écrire cette pièce, mise en scène par votre frère?
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une co-conception en trio, puisque donc Vincent Revert la met en scène et nous la concevons avec Aude Léger, Vincent et moi-même. Donc, et justement, dans le processus d'écriture, la présence de Vincent et Aude a été absolument fondamentale pour justement dépasser le matériau intime et aller vers un matériau théâtral. Et donc, il a fallu presque 3 ans d'aller-retour de version. Une première version très longue, on va dire 80 feuillets. Il en reste maintenant plus que 18, 7h15 que vous évoquiez. Mais là, c'était pas tant parce qu'il s'agissait d'un matériau intime et personnel, mais parce qu'un travail au plateau nécessite justement cet aller-retour entre ce qui est écrit et la réalité scénique et scénographique et ce que ça devient sur scène.
On va y arriver, on va parler justement de cette réalisation. Mais d'abord, le titre, Je me meurs sur scène, mais I Feel Good de James Brown. Comment vous est venue l'idée du titre?
Alors, ça, pour le coup, ça fait vraiment référence à une sensation personnelle vécue pendant la réanimation, puisque la maladie que j'avais est une des maladies les plus douloureuses qui soit. Donc on a des doses de morphine qui sont sûrement au maximum pour calmer un être humain. Et ce n'est pas sans créer certaines hallucinations. Alors moi, elles n'étaient pas visuelles, elles étaient sonores. Et l'agrégat des différents bruits des machines de la réanimation, parce que c'est très bruyant une réanimation, mélangé à la morphine, tout ça m'a donné l'impression qu'apparaissaient dans ma chambre les musiciens de James Brown qui jouent un morceau funk qui n'en finissait pas de finir. Et quand on sait que cette musique funk est, je crois, la musique censée réveiller les morts, il y avait quelque chose, je trouve, d'intéressant comme départ. Au-delà de I Feel Good, je me sens bien alors que je risque de mourir. Mais véritablement, ces musiciens étaient avec moi dans ma chambre systématiquement, ce qui, au long cours d'une réanimation, peut paraître formidable de prime abord, mais qui devient un peu pesant, on va dire, au fil des semaines.
D'où la réplique qui fait rire le public pendant cette représentation, c'est moi qui imaginais que la mort c'était un long couloir noir avec au bout une lumière blanche, mais c'est le contraire. C'est des murs blancs avec que des musiciens noirs qui jouent.
C'est ça. C'est trop funky l'aria.
Mais rejouer quand même ce moment sur scène, est-ce que ça peut être éprouvant des fois?
Honnêtement, ça l'est.
Surtout les soirs où on sent un peu mal, non?
Oui, alors en même temps, c'est une transmutation artistique, c'est-à-dire qu'il s'agit pas du tout d'un événement biographique, parce que malheureusement, tout le monde a un hôpital ou une douleur dans sa vie, et tout le monde sait de toute façon ce qu'est le mécanisme d'un souvenir. Donc ça, on l'a en commun au-delà de ma propre expérience.
Mais sauf que vous avez approché la mort.
Hein. Oui, c'est certain, mais. Finalement, le travail de l'acteur, c'est cette mémoire affective, donc d'aller rechercher un sentiment vrai, un sentiment juste, un sentiment profond. Donc, certains soirs, évidemment, cette connexion est parfois un peu déroutante, un peu violente. Mais j'ai l'impression que le spectacle est conçu de telle sorte qu'il ne s'agit plus de mon histoire. Et donc là, je fais le travail d'un acteur normal, de se connecter avec une mémoire affective, même si c'est son histoire qui est l'écho lointain de ce qu'il est en train de raconter.
Et comment représenter cet état entre la vie et la mort? Donc pour les décors, c'est des cubes tabissés de traits horizontaux, entre courbes médicales où s'inscrivent en rouge les chiffres d'un compte à rebours, d'ailleurs digital, les 29 secondes. Et c'est ça toute la magie du théâtre, qu'on va raconter 29 secondes en 1h15. Généralement, on est habitué au contraire.
Hein. C'est sûr. Mais tous les trois, avec Vincent et Aude, on a, c'est vraiment une problématique, le temps et la mémoire qui nous accompagnent depuis 5 ans maintenant. Et finalement, ce qui nous intéresse, et c'est une façon de répondre encore à votre question précédente, c'est raconter après l'oubli. Et on trouvait intéressant que dans le cadre d'un évanouissement...
C'est raconter après l'oubli ou raconter pour ne pas oublier?
Alors, raconter après l'oubli et finalement essayer de se souvenir. C'est sûrement dans cette dialectique-là. Mais c'est vrai qu'il nous semblait aussi intéressant qu'il n'y ait plus de passé, plus de présent et de futur. Et que dans cet évanouissement de 29 secondes, soit convoqué le passé, le présent et le futur. Et finalement, en une phrase, on peut être dans la réanimation, un demi-paragraphe, être 5 ans plus tard et se projeter dans un souvenir antérieur à la réanimation. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup sur un plateau de théâtre, cette confusion temporelle.
Alors, les deux comédiens, les deux personnages, les deux morts-vivants renaissent, revivent ou reviennent. Quel est le bon mot pour vous ?
J'ai l'impression que ce sont les mots et la volonté farouche de se souvenir qui les reconvoquent. Et on aimerait beaucoup qu'il y ait l'ambiguïté de ne plus savoir qui est le fantôme de l'autre. Ça devait être un monologue au départ, ce texte. Et puis en le travaillant, il nous est apparu important que nous soyons deux. Et là encore, ça s'inscrit dans un souvenir précis de réanimation où, quand moi j'ai eu la chance de quitter le service sur mon brancard, j'ai croisé une jeune fille, un peu plus jeune que moi vraisemblablement.
Qu'elle est vivre la même expérience.
Oui, mais je crois même que vu le rythme, parce qu'on parle assez vite couramment à l'hôpital quand on y reste plusieurs semaines, je sentais que le rythme du personnel soignant autour d'elle laissait plus présager une fin de vie et qu'elle n'aurait pas la chance que j'ai eue de pouvoir quitter l'antichambre de la mort pour retourner dans le monde des vivants. Et en fait, ce dialogue, ces deux personnages, je ne sais pas s'ils existent, mais ils se croisent sur chacun sur leur brancard, l'un allant vers la mort et l'autre allant vers la vie, et comme si le temps se dilatait à ce moment-là. Et finalement, le temps leur appartient à eux deux, avec cette fraternité obscure qui se crée dans ce croisement, puisque c'est très compliqué de parler de la réa avec quelqu'un qui n'a pas été en réa.
Cette pièce raconte justement cette rencontre, cet état d'esprit et ce décor. I Feel Good de Pascal Reverte, avec une mise en scène de Vincent Reverte, c'est avec Aude Léger d'ailleurs, c'est au théâtre Les Déchargeurs, du mardi au samedi à 21h30, et ça se joue jusqu'au 26 mars. Et puisque dans votre pièce, Pascal Reverte, il s'agit de vie, de mort et de renaissance, et ben le questionnaire d'un autre jour va tourner autour.
Au hasard donc.
Voilà, choisissez donc 3 questions. Première question.
Pour commencer la journée, une question. Une autre vie est-elle possible sur Terre ?
Ce sont des questions, bien sûr, qu'on a préparées spécialement pour vous.
D'accord, merci. J'en suis...
Réponse ?
Je me m'efforce de vivre le mieux possible celle que je suis en train de connaître.
Mais vous considérez que c'est une deuxième vie que vous vivez en ce moment ?
Alors, je trouve que dans le côté born again, il y a quelque chose de l'ordre de la repentance, comme si on avait fait une faute dans la vie d'avant et qu'on devait passer par une rédemption pour vivre celle de maintenant. Je trouve que c'est la continuité, finalement il y a une continuité, et maintenant je le dis, puisque je suis vivant, j'ai eu la chance de connaître cette expérience qui m'a permis, non pas de revivre, mais de descendre profondément en moi et de happer ce que je vis maintenant de manière différente de ma vie d'avant.
Deuxième question.
Le meilleur moment de votre vie. Alors, ça va être un clin d'œil au spectacle. C'est pendant toute la réanimation, je rêvais d'une bière bien fraîche. Ma maladie faisait que je n'avais plus le droit de boire ni de manger pendant des mois et des mois. Et c'était moins l'idée de la bière que la liberté qu'elle représentait. Et donc, ça a été un très, très, très bon moment de ma vie quand j'ai pu boire très bien accompagné, en plus, cette première bière quelques semaines après la réanimation.
Et enfin, troisième et dernière question.
Shakespeare, une citation.
Ah là, vous savez très bien que c'est les 400 ans de la naissance de Shakespeare.
Oui, je sais.
Demain, Laurent Nunez sera à votre place pour nous parler de tout ce qui sort autour de cet anniversaire. Mais un homme de théâtre comme vous, Pascal Reverte, il a sans doute une citation de Shakespeare qu'il retient parmi, ou plusieurs d'ailleurs, mais celle qui vous vient à l'esprit là ce matin.
Là, fatalement, par rapport à ce qu'on vit, c'est presque même le... Enfin, Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question, et j'ai l'impression qu'on peut à la fois être et ne pas être, et qu'on peut à la fois être vivant et mort.
Merci beaucoup d'être passé ce matin. Je vous laisse faire le générique de fin.
C'était Un autre jour est possible, une émission quotidienne de Tefik Hakem qu'on peut réécouter ou podcaster en se rendant à la page de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Lise Combe, avec ce matin à la technique, Jeanne Richard Dufour.
Merci Pascal Revert. Demain, on se retrouve à la même heure en compagnie d'Annie Sarthe-Fourien en première partie de l'émission pour parler de Palmyre. Et en deuxième partie, je serai avec Laurent Nunez du magazine Marianne et on va fêter un anniversaire, celui de Shakespeare, les 400 ans de sa naissance. Bonne matinée sur France Culture.